avec Phare FM, redécouvre Noël.
Texte tiré du livre d'Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix.
Avec Phare FM, redécouvrez Noël en recevant gratuitement un Nouveau Testament. Deuxième partie de la Bible sur pharefm.com/bible.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Oh,
faire quelque chose de grand.
Combien de fois j'ai ressenti ce drôle de pressentiment.
Ce petit truc en nous qui peut changer le sens du vent.
Si j'ai la tête dans les nuages, c'est pour les voir de près. Ces étoiles qui me guident vers une meilleure destinée. À quoi sert la vie sans amour ni rêve à exaucer. Donc laisse-moi dans mon vaisseau car je suis prêt à décoller.
Un peu plus près des étoiles.
Des étoiles, soprano sur Phare FM. J'aimerais bien que vous soyez près des étoiles ou dans les étoiles, que vous dormiez encore, mais là du coup, si vous vous réveillez, c'est peut-être que vous devez aller travailler ce samedi. Eh bien, je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée, bon courage pour le travail de ce samedi 21 décembre. C'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit, autrement je suis encore avec vous jusqu'à 7h. Il y a les autres qui travaillent encore et qui s'arrêteront bientôt. Je suis ravie d'être encore avec vous. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Et puis je vous laisse avec David Guetta et Forever Young avant de retrouver Pain de Vie, la grâce de servir Dieu ensemble. Patrice Martorano, ce sera tout à l'heure. Merci de rester avec la radio autrement.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
Vous savez, la Bible dit que l'un laboure, l'autre plante, etc., etc. Mais la finalité, c'est Dieu qui fait croître. Et je crois vraiment que lorsque nous travaillons, Dieu envoie également sa bénédiction. Non pas que nous méritons quelque chose, tout n'est que grâce. Mais je crois vraiment que lorsqu'il y a un peuple assoiffé, Dieu aime se répandre et apporter la bénédiction. Vous le croyez, ça? Alors, nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin de ceux et celles qui sont à nos côtés pour voir la gloire de Dieu se manifester. La semaine passée, j'ai été faire une mission, j'ai fait plusieurs églises, le Val-de-Loire, et puis en montant au Val-de-Loire, je me suis arrêté juste avant, je me suis arrêté à Poitiers, et là j'ai prêché, j'ai eu l'occasion d'apporter la parole de Dieu, et à la fin de la réunion, je me tenais avec les gens, je discutais, je partageais avec les gens qui étaient là, et là il y a une jeune femme qui est venue me voir, elle m'a dit « je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui », je dis « oui », et juste je voulais connaître le témoignage, elle me dit « en fait, il y a 6 mois de ça, je me suis converti avec vous ». J'ai donné ma vie au Seigneur suite à un de vos messages. J'ai dit, ah bon, vous êtes venu quand à l'église? Elle me dit, mais non, en fait, je me suis pas converti, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, je me suis converti toute seule dans ma chambre. Je suis pas du tout chrétienne. J'ai pas d'arrière-plan chrétien. Je me baladais sur YouTube. Et puis, il y a une vidéo de votre église qui a été proposée. Puis vous prêchiez. Et là, dans ma chambre, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été foudroyé. J'ai donné mon cœur à Jésus. Et puis ensuite, j'ai cherché une église et je me suis retrouvé dans cette église. Et là, 3-4 mois après, vous arrivez, vous venez prêcher. Je me dis, c'est juste incroyable. Vraiment le travail de tout un corps ensemble. Et nous allons de l'avant. Et c'est un bénéfice que les gens peuvent recevoir. Alors je crois vraiment que c'est important de réaliser, et ça va être un message ce matin avec la thématique sur le fait de servir Dieu et de l'importance que chacun d'entre nous puissions servir Dieu les uns à côté des autres. Alors le titre du message que je vais apporter ce matin, c'est la grâce de servir Dieu ensemble. Parce que servir Dieu est une grâce, est-ce que vous le savez ça ? Dieu aurait pu se passer de nous, mais Dieu a désiré nous utiliser. Je me souviens, un professeur nous disait ceci, on ne pourra jamais faire ce que le Saint-Esprit doit faire, mais le Saint-Esprit ne fera jamais ce que nous, on doit faire. Et il a plu à Dieu non seulement de nous sauver, mais il plaît également à Dieu de pouvoir nous utiliser pour être une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. J'ai noté ceci, chaque membre de l'Église est unique. Par son âme, ses talents, les traits de son visage, sa culture, sa couleur. Aux yeux de Dieu, malgré nos différences, nous avons la même valeur. Que vous soyez responsable d'un département ou la dame servant le café le jour de goûter fraternel au café Connexion ou autre. Devant Dieu, nous sommes égaux et nous avons besoin les uns des autres. Amen. On a tous besoin les uns des autres ici. Et on va regarder ce matin à une église qui a été certainement dans l'église du Nouveau Testament, l'église qui a eu la plus forte influence. Cette église n'est pas l'église de Jérusalem, même si elle a une influence considérable et énorme et que tout est parti de l'église de Jérusalem. Mais la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, l'église de Jérusalem a connu une persécution. Et alors qu'ils vivent une persécution à cause d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse, celui qui deviendra le grand apôtre Paul. Mais à ce moment-là, il est complètement démonisé, complètement fou, il est enragé. La Bible nous dit littéralement même que son haleine, je ne sais pas si vous imaginez, ça devait sentir assez fort, mais son haleine sentait la menace et le mort. Le gars, il devait vous parler, il devait avoir des choses qui devaient se véhiculer à travers l'haleine, là. Ça devait être quelque chose d'assez incroyable. Et la Bible nous dit qu'il a fait mourir un frère dans la foi qui s'appelait Étienne. Il rentrait dans les maisons, il divisait les familles, il prenait votre mari, le jetait en prison, peut-être c'était votre épouse ou un fils, une fille. Et vraiment, il a porté une terreur sans précédent dans la ville de Jérusalem. Et cet homme, à un moment donné, va donner sa vie à Jésus. Mais avant de donner sa vie à Jésus, quand il respirait, il sentait l'haleine, sentait le mort et la menace. La Bible nous dit qu'il y a plein de chrétiens qui vont fuir la persécution. Et là, il y a un groupe de croyants dont on ne connaît pas grand-chose, vont fuir et ils vont se retrouver dans le pays de la Syrie. Là, aujourd'hui, où il y a toutes sortes d'événements tragiques, mais ils vont se retrouver en Syrie et dans une ville qui s'appelle Antioche. Et là, à Antioche, ils vont commencer à développer une église. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu était avec eux. Et l'église va commencer à se structurer. Et vraiment, ça va être une source. Cette église va être une source de bénédiction juste incroyable. Et une des particularités de cette église, c'est qu'elle a eu ensuite, elle a eu dans son équipe pastorale, je sais pas si vous imaginez la capacité de pardon de cette église, elle a eu dans son équipe pastorale, elle a eu celui qui autrefois les persécutait. Saul de Tarse donne sa vie à Jésus et Saul de Tarse devient un des pasteurs de l'église d'Antioche. Vous imaginez? Le gars qui vous a fait virer, qui vous a tétanisé, terrorisé, d'un seul coup, il devient votre pasteur. Ça demande pour l'Église une mesure de grâce sans précédent. Et cette église est pleine d'enseignements à beaucoup d'égards. Et un de ces enseignements, c'est cette capacité de servir Dieu, malgré toutes les différences qu'elle pouvait avoir. Regardez ce qu'il est dit dans Actes, au chapitre 13, du verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, ou Niger, suivant la version que vous avez, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait ou qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Amen. Quelle grâce de voir une église avec autant de diversité. Premièrement, ce matin, tous pour un. Ça va être très mousquetaire ce matin. Tous pour un. Premièrement, tous pour un, cette notion où nous sommes tous unis pour une seule personne. Nous sommes tous unis avec un objectif en commun. Cette église me bénit, l'église d'Antioche me bénit par la diversité qu'elle a. C'est quand même assez incroyable, quand on lit comme ça, on peut lire sans faire trop attention. Mais vous savez, généralement, là on a lu ensemble, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. J'ai remarqué ceci, généralement dans une église où il y a une grande sensibilité spirituelle, prophétique, etc. On regarde des églises qui sont plus dans tout ce qui est doctrinal, ou c'est que c'est très enseignement, etc. On a tendance à regarder un peu ces églises comme des églises froides, des églises lourdes, des églises tellement organisées qu'elles sont lourdes, qu'elles n'arrivent pas avancer. Et généralement, dans ce type d'église-là, où il y a vraiment les docteurs, etc., on a tendance à regarder les églises où il y a une sensibilité spirituelle, prophétique, un peu pour des gens bizarroïdes. Vous savez, les gens un peu, ouais, c'est prophétique, quoi. C'est, ils vont où le vent souffle, etc., etc. Et là, moi, ce qui me bénit dans cette église, c'est que nous voyons que les deux, et encore, il y avait Barnabas, le pasteur, il y avait Paul, l'apôtre, etc., et nous voyons qu'ils sont tous là et ils sont heureux d'être ensemble. Et il y avait également une diversité dans la culture, les gens qui composaient cette église-là. On voit qu'il y avait Lucius le Noir, c'était un Noir. Il y avait celui qui venait, Simon de Cyrène. Cyrène, c'est l'Afrique du Nord. Il y avait un Noir, il y avait un Africain du Nord. Il y avait Barnabas, qui était un Chypriote. Il y avait Saul de Tarse, qui était un Juif, etc., etc., des Syriens. Et tout le monde était là. Et je crois que c'est une beauté lorsque une église est hétérogène. Et moi, je crois que lorsqu'il y a un réveil, l'Église n'a pas d'autre choix que d'être hétérogène. Qu'on trouve dans cette Église toutes sortes de sensibilités. On voit qu'il y en avait un qui avait été élevé à la cour du roi. Vous imaginez, des classes sociales différentes. Il y avait certainement des gens qui étaient dans la précarité, mais il y avait aussi des gens qui venaient de la haute, qui avaient eu des instructions, qui avaient été élevés avec le roi. Vous imaginez un petit peu tout ça. Et tout ça se retrouve dans la même église. Et moi, je trouve que c'est beau lorsqu'une église est hétérogène. Et lorsque je considère notre église, j'ai pas la prétention de dire que notre église, elle a tout, mais lorsque je vois les différentes générations, lorsque je vois des gens qui ont les cheveux blancs, il y en a plein, lorsque je vois des jeunes hommes et des jeunes filles, des ados qui sont là, c'est quand même une grâce et une diversité. Ça, c'est le miracle de Dieu. Vous savez, quand t'as, à côté de toi, t'as une dame qui a 80 ans, et à côté de toi, t'as un autre jeune qui a 16, 17 ans, et pourtant, ils sont frères et sœurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Logiquement, quand ton frère, ta sœur, on a 5, 10, 15, au plus 20 ans, mais encore, c'est même très loin, ça, d'écart. Mais avoir un frère et une sœur où t'as 60 ans d'écart, ça, c'est vraiment la bénédiction. D'avoir à côté de toi quelqu'un qui a une autre couleur de peau que la tienne, et c'est ton frère et ta sœur, c'est quand même une bénédiction. Vous comprenez? Lorsqu'on voit des chefs d'entreprise s'asseoir à côté de gens qui sont peut-être au chômage, ou qu'on fait des études ou pas d'études, etc., etc. Et je crois que c'est ça, la beauté de la diversité d'une église. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, toutes les personnes sont là, sont composées. Et je crois que ça, c'est la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Une église qui vit un temps de réveil, une église qui vit un temps de croissance, j'ai l'occasion de lire des livres, j'ai l'occasion de voir des églises en bonne santé qui grandissent, nous voyons toujours que le réveil, alors bien sûr, il y a toutes sortes d'échelles différentes dans ce qu'on peut entendre et percevoir du réveil, mais vivent toujours cette notion-là où d'un seul coup, plein de gens, de plein de milieux différents, où on ne se serait jamais retrouvé, où on n'aurait peut-être jamais été amis si Dieu nous avait pas réunis, d'un seul coup, on se retrouve tous ensemble, on bâtit le royaume de Dieu ensemble, on se considère comme des frères ensemble, des frères et sœurs ensemble, on prie ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble, on est heureux d'être là pour le roi des rois. Amen. Et il y a cette notion de nous sommes un corps et chaque personne ici est différente. Chaque personne ici fait partie à une particularité, est un membre différent. Vous savez, en ce moment, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais je suis un peu l'actualité, je regarde, et il y a des gens qui disent, mais t'as pas besoin d'aller à l'église, tu es l'église. J'aimerais vous dire, c'est faux. Vous n'êtes pas l'église seule. L'église, c'est pas moi. L'église, c'est pas toi. L'église, c'est toi et moi. C'est nous, l'église. C'est lorsque les pierres vivantes se retrouvent être ensemble, c'est là que nous sommes l'église. Vous comprenez? Sinon, tu es juste une pierre vivante. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu es pas l'église seule. L'église, c'est le corps de Christ lorsqu'il est réuni. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. Ainsi, le corps n'est pas qu'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Nous sommes tous unis et c'est tous ensemble. Un membre qui est coupé du corps ne fait plus partie du corps. Si je te coupe la main est ailleurs, elle ne fait plus partie du corps. Mais le corps de Christ, c'est lorsque tous les membres nous rassemblons et c'est nous sommes ensemble, nous sommes le corps de Christ et nous avons tous besoin les uns des autres. Regarde ton voisin et dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de qui tu es. On a besoin les uns des autres. C'est pourquoi, quand on considère l'église d'Antioche et quand on considère la diversité, c'est toute une complémentarité qu'il y a. Lorsqu'on considère Saul de Tarse ou Barnabas, j'ai mis ceci, quand nous considérons Barnabas et Saul, on ne peut être qu'ébloui par une telle complémentarité. Saul, le docteur bulldozer, le défricheur, celui qui, devant tout son passage, tu peux le mettre dans un endroit, il n'y a rien, il va te faire une route le gars. Et Barnabas, le pasteur bienveillant. Je crois que c'est tellement important de réaliser la complémentarité qu'il y a. Et que c'est tellement important de réaliser, moi tout seul, ça ne suffit pas. Je suis pas le corps. J'ai besoin, si je suis une main, j'ai besoin de l'œil, j'ai besoin du cou, j'ai besoin d'un pied. Vous comprenez? Et tous ensemble, on a besoin, tellement besoin les uns des autres. Moi, une des choses, je le dis, puis vraiment quand je le dis, les gens pensent que j'essaie de faire le faux modeste, mais vraiment, il n'y a aucune fausse modestie. Je le dis, puis je suis heureux même de le dire. J'ai pas beaucoup de dons. Mais les dons que j'ai, je les développe par la grâce de Dieu pour essayer d'être une source de bénédiction. Mais je trouve que c'est génial de pas avoir beaucoup de dons. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'oblige à dépendre des autres. Moi, je suis le style de gars, et certainement qu'il y en a d'autres qui sont que moi, quand moi je sais faire quelque chose, j'ai pas envie de le déléguer aux autres. J'ai vraiment du mal de le déléguer aux autres. Donc le top du top, c'est quand je sais pas faire du tout. J'ai besoin des autres. Pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Je suis obligé de me retrouver dans une église où il y a plein et on va développer ça. Et finalement, toutes les faiblesses que tu as, plutôt que de le vivre comme une faiblesse, plutôt que de le vivre comme oh, j'ai pas de chance, ceci, cela, en fait, c'est une force. Ça nous amène à réaliser la complémentarité au milieu du peuple de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tous ceux qui chantent juste, et j'ai besoin de chacun d'entre nous. Et on a tous besoin les uns des autres. Et c'est une grâce et une bénédiction. Et je crois que c'est tellement important quand on le réalise. C'est ça l'église. C'est ça le corps de Christ. L'œil ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Mais on comprend qu'on a des fonctions différentes et que les fonctions d'un œil sont différentes des fonctions d'un pied. Mais on a tous besoin, tout le monde est important et nous avons tous besoin les uns des autres. Est-ce que vous le croyez ça? Et lorsque l'on comprend ça, lorsque l'on comprend qu'on a besoin les uns des autres, l'autre, écoutez bien, l'autre n'est plus un problème qui risquerait de me piquer ma place, l'autre n'est pas un problème que je vais jalouser, une personne que je vais jalouser, mais je comprends que Dieu me fait la grâce, finalement c'est un cadeau pour moi. Et non un problème, c'est quelqu'un qui va ensemble, on va s'aider et on va aller de l'avant. Une personne remplie de grâce bannit définitivement de sa vie la jalousie et la quête de position personnelle. En fait, nous ne servons pas nos dons pour nous faire un nom. En fait, les dons que nous avons sont des dons pour être une source de bénédiction les uns pour les autres. Le don que j'ai n'est pas pour me faire un nom. Le don que Dieu m'a donné est pour vous bénir et vous encourager. Le don que tu as n'est pas là pour fatiguer l'église. Le don que Dieu t'a donné est là pour bénir le peuple de Dieu. Vous comprenez? Et des moments quand on est en recherche de quête personnelle ou quoi que ce soit, d'un seul coup, on fatigue tout le monde avec son don. J'aimerais te dire, ton don n'a pas été donné pour que tu fatigues les gens autour de toi. Ton don t'a été donné pour être une source de bénédiction. Et je prends ce que j'ai. Je prends les qualités que Dieu m'a données, qui sont propres, et je vais pas m'en excuser, mais c'est les dons et les qualités que j'ai, mais je réalise que je vais prendre ça, et je vais être une source de bénédiction. Ton don est là pour bénir celui qui est à côté de toi. Barnabas, quand on lit ce passage, c'est incroyable. Barnabas, quand il y a eu le don spirituel, la Bible dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Faut comprendre ceci, c'est que l'ordre est important. Lorsque le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », il fait de Barnabas le responsable de l'équipe. Il est cité en premier. Dans le contexte biblique, t'es cité en premier, c'est toi le chef, c'est toi le leader. Et Barnabas est cité en leader. Moi, j'imagine un instant, Saul de Tarse, celui qui va devenir l'apôtre Paul, lorsqu'il entend ça. Peut-être au fond de lui, il a dit, hop, 2 minutes, là, celui qui donne le don, la Bible dit qu'il faut juger de tout, alors je vais juger ce que tu viens de dire. T'es sûr qu'il t'a dit de dire Barnabas en premier? Parce que comprenez ceci, ça fait 14 ans quand même que le monsieur il attend. 14 ans qu'il attend et il se retrouve à ce moment-là et il a eu un don dans sa vie, Barnabas, le Saul de Tarse. Le don qu'il a eu au moment où il donne sa vie au Seigneur, c'est qu'il va être un instrument de choix pour toucher les nations. Alors moi j'imagine quand Saul de Tarse entend le don spirituel, attends, 2 secondes, c'est pas toi, ça va être moi parce que autrefois il y a eu un don spirituel quand même, tu as pas parlé de ça, c'est le Saint-Esprit qui l'avait dit et etc., etc. Non, vous savez ce que Saul de Tarse fait? Il laisse et il va travailler de tout son corps, de toute son âme, et il va attendre que Dieu le mette en place. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul. Et à partir du moment où il devient l'apôtre Paul, c'est lui qui va devenir le responsable, qui va devenir le chef quelque part de l'équipe missionnaire. Il n'y a pas juste Barnabas et Saul, ils étaient plusieurs, et ils vont avancer ensemble. Et j'aime cette notion de cet homme tellement spirituel, de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, qui va être capable de réaliser, j'ai reçu un don, il y a des prophéties qui sont sur ma vie, mais je continue, je suis soumis à l'Esprit de Dieu, et je continue et j'avance, et je crois que quand j'ai cette attitude-là, le Seigneur finit toujours par m'amener là où je dois aller, et je finis par être une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. C'est tellement important de comprendre ça, vous savez pourquoi? Quand nous servons tous, les uns à côté des autres, vous savez, une église qui vit une croissance est une église hétérogène. Est une église avec plein de dons, plein de qualités, plein de choses différentes. Mais ça veut dire aussi quelque chose. Ça, c'est la force, c'est la beauté. Mais il y a quelque chose également, il y a le pendant de tout ça, c'est que l'équilibre dans la diversité est très fragile. C'est un peu comme un mariage mixte. Deux personnes de même culture qui se marient, c'est assez facile. Ils ont les mêmes valeurs, ils ont eu la même éducation, ils aiment manger les mêmes choses, ils parlent la même langue, ils voient les choses pareilles. Deux personnes de culture complètement différentes qui se marient, ça peut faire des mariages magnifiques, hein, mais ça demande beaucoup plus de travail. Ça demande de mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles, etc., etc. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la diversité amène une fragilité au niveau de l'équilibre. Et c'est tellement important de le comprendre afin que je réalise que on est une église hétérogène, on a des dons, des talents, des sensibilités différentes et je suis appelé à respecter celui qui est à côté de moi, à respecter qui il est et sa génération et ma génération et sa couleur et ma couleur et qui on est, etc. Et que tous ensemble, on puisse le réaliser, s'aimer, s'apprécier et prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est tellement important de pouvoir comprendre qu'il y a tout un équilibre à avoir dans la diversité. Alors vous connaissez l'expression « tous pour un et un pour tous ». Deuxièmement, lorsqu'on est tous pour un, pour que quelqu'un dans le corps de Christ, un œil, un pied, je sais pas, puisse se développer et avoir un impact pour le royaume de Dieu, on doit comprendre que « tous pour un et un moi pour vous tous et toi pour tout le monde ». Comprenez-vous? C'est un peu comme les mousquetaires. Et on va le voir, c'est tiré de la Bible tout ça. Hein. Mais il y a cette notion de « je suis là pour toi, mais tu es là aussi pour tout le monde ». Et c'est ensemble, on comprend et on avance avec cette notion-là. Dans les différentes épreuves, on voit que Barnabas et Saul de Tarse, l'apôtre Paul, vont faire bloc. Durant tout le voyage missionnaire, on sait que par la suite, lorsque le voyage missionnaire va se terminer à cause d'une autre tierce personne, c'est pas mon message de ce matin, mais il va y avoir un malentendu, puis ils vont être obligés de faire 2 équipes différentes. Mais durant tout le voyage missionnaire et les épreuves qu'ils ont connues, quelqu'un qui abandonne, des complications, des gens possédés, des gens qui les fatiguent, les coups, la prison, etc., ils ont toujours fait bloc. Ils ont marché ensemble, un pour tous et tous pour un. Je suis là pour toi, tu es là pour moi, et on avance. Et lorsqu'une église le comprend, elle va de plus en plus loin. Bud Wilkinson a dit, pour qu'une église atteigne son objectif, ça peut être vrai pour toutes vos travails dans le séculier, chaque membre doit être prêt à subordonner ses ambitions personnelles au bien de la communauté. Également, dans la même perspective, Rick Rock déclara « Aucun d'entre nous n'est plus important que l'ensemble de l'Église. » Et on doit comprendre ceci, c'est que chacun ici, on est appelé à servir Dieu, mais chacun ici, on a des sensibilités différentes et on doit avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire voir l'Église de manière générale. Parce que sinon, on va toujours vouloir tirer les choses par rapport à son propre ministère. Sauf que la réalité, moi en tant que pasteur, je regarde ça et la réalité est la suivante, c'est qu'il y a une vue d'ensemble. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre, c'est tous ensemble, le corps bien huilé, bien fonctionné, avec les différentes sensibilités. On doit comprendre que Dieu peut utiliser des gens qui ont une autre sensibilité que la mienne et c'est bien. C'est bien qu'il y en a qui aiment s'occuper des enfants, d'autres faire la louange, d'autres la prière, d'autres l'évangélisation, d'autres s'occuper des pauvres et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Je dois comprendre qu'au-delà de mon appel, il y a l'appel de l'Église. Et personne n'est plus important. Et moi-même qui vous parle, moi-même le premier qui vous parle, il n'y a rien de plus important que l'épouse de Jésus. Il n'y a rien de plus important que l'Église. Et on est là ensemble et Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous côtoyer avec des dons qu'il donne à chacun comme il le désire. Et ensemble, nous servons le roi des rois pour voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. À Antioche, ils étaient unis pour servir Dieu. Regardez ce que Paul dit. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Okay? On veut plus être des enfants, on veut devenir des adultes. Écoutez bien, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ, c'est de lui que le corps, écoutez bien, tout entier, tire sa croissance. Une église qui grandit, la croissance de l'église, pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité qui venant de toutes les articulations. Pas juste d'un département, pas juste d'un service, pas juste ta sensibilité, mais de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ces parties. Amen. Comprenez-vous? Et c'est comme ça que je réalise que l'Église est là et je sers l'Église et je sers le Dieu et en servant Dieu, je sers également son épouse. Vous savez, la chose qui m'interpelle, on l'a lu ensemble, la Bible dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. » Et juste avant, la Bible nous dit « Pendant qu'ils servaient Dieu, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, enfin Barnabas et Saul de Tarse pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Moi, la question qui m'arrive de suite quand je lis ça, c'est alors qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils étaient en train de servir Dieu, mais ils faisaient pas l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Eh oui, ils étaient en train de servir Dieu, et d'un seul coup, Dieu dit mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire un job qui n'était pas leur appel. Mais comprenez ceci, ils le faisaient quand même. Et des moments, il y a cette notion dans la pensée des gens, j'ai reçu un don, un jour quelqu'un est venu, il a prié pour moi, il m'a prophétisé, je vais être le futur évangéliste international, etc., etc. Et là, tu passes tes journées avachies sur ton canapé, à manger des chips et à boire du coca. J'aimerais te dire, dans 10 ans, tu seras toujours sur ton canapé. Vous comprenez? C'est pas comme ça. Dieu utilise toujours des gens qui se mettent en mouvement. Alors que je suis en mouvement, alors que je suis en train de servir Dieu, à un moment donné, le Saint-Esprit va parler et il va m'amener à une prochaine étape. C'est un peu comme le bateau, un bateau. Il y a des bateaux qui sont amarrés, ils sont au port, la voile est rangée, il y a l'ancre de posée, ils sont amarrés complètement au port et ils sont là. Et j'aimerais un jour voyager, J'aimerais dire, si t'es comme ce bateau, t'es au port et puis de temps en temps il y a une petite secousse, puis ouh, il y a des émotions ce matin, ouh, ça m'a fait du bien. J'aimerais te dire, dans 10 ans tu seras toujours au port. La réalité, pour avancer, il faut que le bateau déplie la grand voile, il faut qu'il lève l'ancre, il se met en mouvement, et alors qu'il se met en mouvement, quand le vent de l'esprit va souffler, il va aller dans sa direction. Mais le vent a beau souffler, s'il a pas sorti les voiles, s'il a pas levé l'ancre, ça peut pas fonctionner. Et c'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Et je crois vraiment que c'est tellement important. Souvent, il y a cette pensée en France, écoutez bien, où les gens pensent qu'ils vont rentrer dans le ministère. C'est une pensée. Oh, je suis rentré dans le ministère tel moment, telle date. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que nous rentrons dans le ministère. Je crois que nous grandissons dans le ministère. Moi, je crois que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans le ministère. Et ensuite, tu grandis dans le ministère. Je comprends la notion de rentrer, peut-être rentrer dans un appel particulier. Mais la notion, c'est on grandit et on évolue dans le ministère. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous aurais fait rire. Hein, moi, je faisais tout ce que je pouvais faire. Je distribuais des tracts. J'ai même chanté dans la rue. Vous le direz pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'étais moniteur, j'étais le ménage, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Même une des choses que vraiment qui me tenait à cœur, c'est lorsque la réunion était terminée, je remettais toujours l'église nickel. C'est-à-dire je rangeais, je prenais tous les papiers, je faisais le tour des rangs, j'enlevais tous les papiers et je rangeais. Vous savez, quand on finissait, la réunion se termine et puis les chaises, elles bougent. Et moi, je rangeais toutes les chaises, fallait que toutes les chaises, elles soient nickel. En plus, j'avais un pasteur, c'était un ancien militaire. Et lui, son kiff, c'était de se mettre comme ça et quand il voyait une chaise, il voulait en voir qu'une. Il voulait que toutes les autres chaises soient cachées derrière tellement que c'était bien aligné. Et là, je passais 20-25 minutes, je rangeais toutes les chaises comme ça. Et je me souviens, il y avait un gars à l'église, à chaque fois qu'il me voyait, il riait de moi. Il me disait, ah, toi, t'as le ministère de la chaise, ha, ha, et il riait de ça. Tout le temps, il m'appelait le gars qui a le ministère de la chaise. Sauf que le ministère de la chaise en ministère de la chaise, aujourd'hui, j'ai pu évoluer par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Alors que j'aurais pu rester sur mon canapé à vacher en me disant, il est hors question que moi je range des chaises parce que tu comprends, mon appel un jour sera d'écrire et de prêcher, etc., etc. Je crois que si j'avais eu cette pensée, je serais pas là devant vous aujourd'hui. La pensée c'est, mets-toi en mouvement, sers le Seigneur, sois celui qui va servir et Dieu va t'amener d'étape en étape. Le Saint-Esprit va parler parce que je crois que Dieu parle encore et le Saint-Esprit va te diriger et te conduire là où il désire que tu puisses avoir un impact pour le royaume de Dieu. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Littéralement en grec, c'est son poema, son poème. Et là, toutes les femmes font ouh. Et non, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés pour pratiquer les œuvres que Dieu a désirées pour nous. On doit comprendre que c'est tous ensemble où nous pouvons avoir de l'impact. Et c'est tous ensemble où nous voyons la grâce et la gloire. C'est pas un gars qui gesticule. Tout à l'heure, je vous parlais de cette jeune fille qui a donné sa vie, cette jeune femme qui a donné sa vie au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, si c'était juste moi, elle l'aurait jamais eu. Ça demandait une équipe qui prenne le son à la sono. Ça prend des gars qui font, ou des filles qui prennent la captation vidéo. Ça prend quelqu'un qui fait le montage. Vous comprenez? C'est pas l'histoire d'un gars qui est sur le devant, là, puis gesticule dans tous les sens. Ça fait rien, ça. La réalité, c'est lorsque nous sommes tous ensemble, que nous servons, que nous voyons la gloire de Dieu se manifester.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur églisemomentum.com.
C'est à 1h15 et 4h15 sur Phare FM, dans la nuit autrement. On poursuit en musique avec David Richen, Petit Homme.
Petit homme, il gronde fort cet orage dont le tonnerre est jamais d'y croire. Même si l'espoir s'habille tout en noir, même si l'aube des promesses ne sont plus éclairées, tes instants de faiblesse. Et tu cries, tu pries, ce Dieu qui se cache dans les cieux, son silence, tes croyances s'affronter te font perdre patience et à genoux, plus de garde-fou. Les yeux brillants et le corps chancelant, les armes à terre, l'âme dans la poussière. Tu espères et espères et espères. Et puis un jour il est venu, celui que tu n'attendais plus. Il ne t'a pas délaissé. Ont été recueillis et tes peines adoucies, sa présence dans tes silences a ravivé les flammes de l'espérance. Et à genoux, sans garde-fou, l'âme apaisée et le cœur consolé, les armes à terre en face du Père, tu auras.
Of a little boy, 5'8 brown hair, still unemployed. Hoping that there was something more, but still not sure that he deserved the cure. Gueule de bois tous les matins. Pourquoi chaque fois j'en sais rien? C'est mon quotidien et je n'y peux rien.
Oh God,
I'm trying to be better, but I need a savior.
Oh yeah, oh, I need a savior.
Oh God, I know that I need a savior.
Oh yeah, oh, I need a savior.
To save me from myself. Oh my God, are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in.
Yo, it's the story of a grown boy. New life, new faith, I made new. I can't explain what made me change, but Lord, just let it rain on me.
Rempli de ta grâce, je te remercie.
Je me donne tout de moi, je lève ma voix. J'écris sur tous les toits, tu es ma joie.
Oh God, I'm trying to be better, but I need a savior.
Oh yeah, oh, I need a savior.
Oh God, I know that I need a savior.
Yeah, that's right.
To save me from myself. Oh my God, are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in.
Oh my God, are you up in the sky, looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in.
Oh my God, are you higher up in the sky, looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in. Oh my God, are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word?
Little Boy, Mathieu Brouillet sur Phare FM 5h-10, la radio autrement qui vous accompagne dans la nuit autrement. Je suis ravie d'être avec vous encore jusqu'à 7h. Je vous propose de poursuivre en musique Greg David, In Your Hands. Et puis on va retrouver le plus beau cadeau de Noël, c'est avec Timothée Patton.
Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away. I wish I'd always held you closer. Back in the day, I was so unaware. In a million ways, you said you'd always be there. Cause I knew in my heart I would wake up one day on a whole different wave, and I'd be back in your head. Back in your hands, back in your hands, back in your hands. You got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. You got the whole. Like a young boy, but now the garden has grown. I took the long road, I took the long way to finally find my way home. Cause I've been praying before I go to sleep. I hear that voice inside of me, cause you've been with me all along. Back in the day, yeah, I was so unaware. In a million ways, you said you'd always be there. Cause I knew in my heart I would wake up one day on a whole different wave, and I'd be back in your back. Hands, back in your hands,
got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. You got the whole.
Le plus beau cadeau de Noël avec Timothée Patton.
Je suis tombé un jour sur l'histoire de cette petite fille d'une famille très pauvre qui se trouvait à l'hôpital le jour de Noël. Et c'est là qu'elle entend pour la première fois l'histoire de la naissance de Jésus. Elle est toute émerveillée. Elle se tourne vers une des infirmières et lui dit « Vous saviez-vous que Jésus est né ?» L'infirmière lui répond « Eh oui, bien sûr. Vous le saviez vraiment ?» reprit la petite « Parce que vous n'en avez pas l'air. Et vous qui m'écoutez, vous le saviez ? Jésus est né ? » C'est la plus belle nouvelle qui soit. Même en cette période difficile que nous traversons tous, on peut être joyeux, en paix, oui en paix, et joyeux aussi, parce que le Sauveur du monde, Jésus, il est né.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à demander une Bible gratuitement sur farfm.com/bible.
Stars still fade in the sky. All along the journey, you leave the past behind. I had a dream that we could fly.
Top Job The Ears, Switchwood sur Phare FM. Dans deux minutes, il sera 5h. Notre programme se poursuit. Héloïse, c'est ça la vie, c'est maintenant. C'est sur Phare FM, dans la nuit autrement.
Oh, le vent souffle fort dans la rue froide et sombre ce soir. Tous ces gens, je les voyais danser au rythme des guitares et les gars vont draguer les filles les plus stylées pendant que la jeunesse agitait vent loin pour se poser. Le son des chansons augmente, chacune meilleure que la précédente. Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Je chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Moi ce que je veux c'est la scène partout, dans toutes les villes. Non, je ne veux plus chanter dans cet exil. Donnez-moi ces moments-là que j'ai attendu tant de fois. Moi ce que je veux c'est entendre vos voix un peu fébriles, écrire des histoires indélébiles. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? La vie, tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Où va-t-on chanter ce soir?